Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 19 septembre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Affrontement à Port-Soudan pour la première fois depuis le début de la guerre au Soudan. Et au Soudan du Sud, le président Salva Kiir, accusé de violer l'accord de paix. En RDC, trois semaines après la tuerie de Goma, les familles enterrent leurs morts. En Côte d'Ivoire, une mystérieuse maladie cause 7 morts et 59 hospitalisations dans un village proche de Bouaké. L'Italie durcit sa législation contre les migrants en situation irrégulière. À New York, ouverture officielle aujourd'hui de l'Assemblée générale de l'ONU. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Soudan, des affrontements ont éclaté, selon des témoins, lundi soir entre l'armée et une milice tribale à Port-Soudan, dans l'Est. Cette ville avait jusqu'à présent été épargnée par la guerre qui fait rage depuis 5 mois au Soudan. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Il y a eu un échange de coups de feu entre l'armée et une milice dirigée par Sheba Darar, un chef de la tribu locale Béja, dans le centre de Port-Soudan, indique un témoin. Un autre habitant a fait état, sous couvert d'anonymat, d'un retour au calme peu après avec des soldats de l'armée déployés dans la zone. Sheba Darar a soutenu l'armée au début de la guerre avant de se rebeller contre les représentants du gouvernement qui s'installaient dans l'est du Soudan. Il n'a toutefois pas annoncé d'alliance avec les paramilitaires qui forment les FSR. Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide de son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo était surtout concentré à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest. Port-Soudan abrite le seul aéroport encore opérationnel du pays et l'ONU y a établi son centre logistique. Depuis fin août, cette ville a servi de nouvelle base au chef de l'armée après que son quartier général à Khartoum a été assiégé par les FSR. Le conflit a fait près de 7 500 morts, selon une estimation prudente de l'ONG Ahmed Conflict Location and Event Data Project.
Au Soudan du Sud, pendant ce temps, un groupe de députés du parti au pouvoir a quitté le Parlement lundi, accusant le président Salva Kiir de violer un accord de paix après l'adoption d'une loi controversée pour les élections de l'an prochain. Le contentieux porte sur le système de désignation des députés. Le groupe soutient le vice-président Riek Machar, rival du président Kiir, au sein du SPLM. Après son indépendance du Soudan en 2011, le Soudan du Sud a sombré dans une guerre civile qui a fait près de 400 000 morts et des millions de déplacés entre 2013 et 2018. Le gouvernement italien a approuvé lundi de nouvelles mesures pour endiguer les arrivées de migrants, notamment en créant davantage de centres de rétention et l'extension de la durée de rétention pour les migrants déboutés, afin de dissuader les départs d'Afrique du Nord. Eric Manirakidza.
Une augmentation significative des arrivées de migrants a été enregistrée sur la petite île italienne de Lampedusa. 8 500 migrants ont débarqué en 3 jours la semaine dernière, obligeant le gouvernement d'extrême droite à adopter une approche de gestion de crise. La première ministre Giorgia Meloni a promis dimanche des mesures plus strictes, notamment en prolongeant la durée maximale de rétention des immigrés en situation irrégulière de 135 jours à 18 mois. La réforme permettra également d'éviter la libération des étrangers en attente d'expulsion si la procédure n'est pas achevée dans les délais actuels. Cependant, les experts doutent que cette mesure soit suffisamment dissuasive, étant donné les conditions difficiles auxquelles les migrants font face en Afrique du Nord. L'opinion publique s'interroge aussi sur l'efficacité de ces nouvelles mesures et sur leur impact réel sur les flux migratoires. Plus de 80 ONG, associations et collectifs ont critiqué le plan gouvernemental, le considérant comme une répétition d'approches précédentes qui ont échoué. La présidente de la Commission européenne a proposé un plan en 10 points pour aider l'Italie à faire face à la crise migratoire qui vise à lutter contre les passeurs et à faciliter les voies légales d'entrée dans l'Union européenne pour les demandeurs d'asile éligibles.
En RDC, près de trois semaines après la tuerie de plus de 50 civils à Goma dans l'est du pays, tuerie attribuée à des militaires, les familles des victimes ont pu lundi enterrer leurs morts. Le 30 août, des militaires congolais ont réprimé violemment une tentative de manifestation contre la présence de l'ONU en RDC, faisant au moins 57 victimes, selon Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, qui était sur place lundi à Goma. Six militaires de la garde républicaine, dont deux officiers supérieurs, sont jugés depuis le 5 septembre à Goma pour crimes contre l'humanité et non-respect des consignes, accusés d'être responsables de la tuerie. En Côte d'Ivoire, des sources hospitalières et locales ont dit hier lundi à l'AFP que 7 personnes sont mortes dimanche à Niangba, village situé à une trentaine de kilomètres au sud de Boaké, où 59 autres ont été hospitalisés en raison d'une maladie d'origine encore inconnue. Ces hospitalisés sont majoritairement des enfants et quelques adolescents, a ajouté une des sources précisant que les symptômes de la maladie sont des vomissements et des diarrhées. Un proche du chef de village a indiqué que selon des rumeurs, une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a exprimé lundi sa pleine solidarité avec la France, dont l'ambassadeur au Niger est sous le coup d'une expulsion des militaires ayant pris le pouvoir. Josep Borrell l'a souligné lors d'une conférence à New York à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Paris ne reconnaît pas les autorités nigériennes issues du coup d'État survenu fin juillet et refuse à ce titre le départ de Sylvain Ité, comme exigé par les putschistes. M. Borrell a également redit son soutien entier au président Mohamed Bazoum, renversé et retenu prisonnier par les militaires. Sur le Sahel, il a répété que l'Union européenne devait réévaluer sa stratégie, son approche, ses politiques et ses attentes. Toujours à New York, les pays en développement réclament des réformes du système mondial pour que leurs populations les plus vulnérables, frappées de plein fouet par une avalanche de crises, aient une chance de vivre un jour l'avenir meilleur qui leur a été promis. Ils ont fait cette demande hier lundi à l'ouverture de la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Nani Talani.
Les objectifs de développement durable portent les espoirs, les rêves, les droits et les attentes des personnes du monde entier, a insisté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pendant le sommet sur le développement qui a ouvert la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. « L'heure est venue de prouver que vous êtes à leur écoute », a-t-il lancé, insistant sur la lutte contre la faim, l'accélération du développement des énergies renouvelables ou l'accès pour tous à un emploi décent. En fin de compte, atteindre les ODD dépend d'une réforme fondamentale des relations économiques et politiques, a renchéri le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Si vous ne respectez pas vos engagements de limiter le réchauffement sous plus 1,5 degré Celsius, vous mettez des vies et l'avenir de notre génération toute entière en danger et de ceux qui viendront après, a lancé à la tribune la jeune militante sud-africaine Ayaka Melitafa. Elle a appelé tous les dirigeants à écouter la tribu des jeunes laissée sur le bord de la route. À mi-parcours, seulement 15% des 17 objectifs de développement durable sont en bonne voie. Beaucoup stagnent et d'autres régressent, alors qu'ils ont été adoptés par l'ONU en 2015 pour construire un avenir meilleur et plus durable d'ici 2030. Ils visent entre autres la fin de la pauvreté, l'accès à l'éducation, à l'eau potable ou à une énergie propre, être en bonne santé, la lutte contre le changement climatique ou parvenir à des sociétés en paix.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky montera pour la première fois ce mardi à la tribune de l'ONU, attirant toute l'attention dans un monde fragmenté et ébranlé par des crises en Syrie, en particulier l'invasion de son pays par la Russie. Comme c'est la tradition, le Brésilien Luiz Inácio Lula da Silva sera le premier chef d'État à prendre la parole ce mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Le suivront notamment le président américain Joe Biden et le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan qui tente de ressusciter l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes via la mer Noire ou encore le président sud-africain. Sur le plan intérieur, ici aux États-Unis, le président Joe Biden a assuré lundi avoir conscience des interrogations sur son âge, mais a expliqué qu'il se représenterait afin de défendre la démocratie américaine que son prédécesseur Donald Trump veut détruire selon lui. La Minute Éco, Nanit Kalani.
Un haut responsable américain a salué lundi les réformes drastiques entreprises par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu depuis son arrivée au pouvoir en mai, affirmant qu'elles constituaient une opportunité pour la plus grande économie d'Afrique. M. Tinubu a mis fin à une subvention au carburant qui maintenait le prix de l'essence artificiellement bas, mais coûtait au gouvernement des milliards de dollars et libérait également la monnaie Naira. L'économie du Rwanda a connu une croissance de 6,3% en glissement annuel au deuxième trimestre 2023, a déclaré lundi Youssouf Mourangwa, directeur général du Bureau des statistiques du gouvernement. Pour terminer, la Société financière internationale a investi 15 millions d'euros dans le Joliba Fund 1, géré par la Société africaine de capital investissement Joliba Capital, basée en Côte d'Ivoire. 80% de ces fonds devraient soutenir la promotion du secteur privé et la croissance des PME dans plusieurs pays, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Cameroun et le Gabon. Au total, Joliba Fund 1 a levé 55 millions d'euros auprès d'investisseurs commerciaux et de bailleurs de fonds.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer, l'unité d'intégrité fait appel du cas Toby Amoussa.
Oui, l'unité d'intégrité de l'athlétisme a annoncé hier avoir fait appel devant le tribunal arbitral du sport pour le cas de la record woman du monde nigérian du 100 mètres haies. Toby Amoussa avait été suspendu provisoirement en juillet suite à une instruction de l'unité d'intégrité de l'athlétisme avant de voir sa suspension levée par le tribunal disciplinaire le 17 août. L'organe antidopage de l'athlétisme mondial reproche à Amoussa 3 manquements à ses obligations de localisation en moins d'un an, pouvant valoir 2 ans de suspension. La Nigériane avait réussi une superbe saison 2022 avec le titre mondial et le record du monde en 12 secondes 12 à Eugene dans l'Oregon, ici aux États-Unis. Ville où elle s'est imposée dimanche lors des finales de la Ligue de Diamants 2023.
Football, match nul entre Al-Ahli Benghazi et l'ASEC d'Abidjan. Dans la dernière rencontre du deuxième tour préliminaire aller en Ligue des champions CAF.
Les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa et les Libyens ont fait match nul 0-0 dans la ville tunisienne de Sousse. Cette rencontre était prévue à Benghazi dimanche, mais la CAF a changé la date et le lieu du match en raison des inondations qui ont frappé l'est de la Libye. Ce score de 0-0 sur la côte méditerranéenne fait pencher la balance en faveur de l'ASEC, qui veut éviter une troisième élimination consécutive à ce stade. Le match retour aura lieu à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, le 1er octobre, dans un des stades qui accueillera la prochaine CAN.
En Europe, la nouvelle saison de la Ligue des champions débute ce soir.
L'AC Milan, septuple vainqueur, et le revenant Newcastle, qui n'a plus joué cette compétition depuis 21 ans, s'affrontent. Les nouveaux riches aux capitaux saoudiens ont timidement commencé leur saison, seulement 11e de Première Ligue anglaise. Mais les Milanais viennent de se faire gifler par l'Inter 5-1 dans le derby. Le PSG aussi sort d'une grosse déconvenue, battu chez lui par Nice 3-2, et compte sur son buteur toujours en forme, Kylian Mbappé. Déjà 7 réalisations cette saison pour assumer son statut de tête de série. À suivre aussi Feyenoord Celtic. Manchester City aborde la défense de son titre contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le RB Leipzig se rend à Berne pour affronter les Young Boys. Le FC Barcelone commence à domicile contre le Royal Antwerp. Et puis le Shakhtar Donetsk, qui ne peut pas jouer ses matchs à domicile dans une Ukraine en guerre, accueille le FC Porto à Hambourg, en Allemagne.
En votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé samedi une charte du Liptako-Gourma qui a créé l'Alliance des États du Sahel. Son but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. La charte prévoit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considéré comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint à Paris, en France, Sédek Abba, analyste politique, auteur du livre « Mali Sahel, notre Afghanistan à nous ».
Face aux défis sécuritaires qui se posent à ces trois pays, il était urgent de construire une réponse transnationale. On cherchait une formule, puisque le G5 Sahel n'a pas marché. Et avec cette alliance, les pays ont décidé de se mettre ensemble pour construire une architecture de défense et asseoir une démarche de solidarité, puisque, comme il est dit dans la charte, les problèmes sécuritaires de chaque pays concernent les autres pays. Et donc, je pense que c'est une sorte d'OTAN du Sahel qu'on a créé, puisque l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est aussi bâtie à peu près sur cette même architecture commune de défense et ce devoir de solidarité.
Justement, vous avez évoqué le G5 Sahel. On sait que le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Est-ce que, de fait, le G5 Sahel est mort?
Le Mali, quand même, tient une place stratégique dans le G5 Sahel. Les autres pays membres n'ont pas de continuité territoriale avec la Mauritanie si le Mali n'est pas dans le G5 Sahel. Et d'un point de vue opérationnel, à partir du moment où le Mali s'est retiré, l'ensemble des structures du G5 Sahel ont presque quasiment cessé de fonctionner. Vous avez parlé du retrait du Mali, mais le Burkina aussi avait une posture un peu ambiguë, avec un pied dedans, un pied dehors, puisque, comme vous savez, le président de transition n'est pas allé à N'Djamena pour le sommet du G5 Sahel, le dernier sommet. La création justement de cette nouvelle structure permet de construire une réponse commune avec des enseignements que l'on a pu tirer de l'échec du G5 Sahel, puisque comme on sait, le G5 n'a pas véritablement fonctionné parce qu'il reposait sur l'assistance internationale. Et là, on sent qu'il y a une démarche androgène.
Il y a la question du timing. Cette alliance arrive au moment où la CEDEAO garde sur la table l'option d'intervention militaire au Niger pour établir dans ses fonctions le président déchu Mohamed Bazoum. Le Burkina et le Mali se disent solidaires du Niger et vont répliquer au cas où cette intervention-là a lieu militairement. Comment vous analysez cela?
Il est évident que, puisque la charte a été signée par le président de ces trois pays, elle rentre automatiquement en vigueur. Et si aujourd'hui, il y a une attaque sur le territoire nigérien, la charte fait obligation au Burkina et au Mali de se mettre immédiatement aux côtés du Niger. Donc, il y a effectivement un risque de confrontation directe entre une partie de la CEDEAO dont on peut redouter les conséquences à la fois sur la stabilité et la sécurité de l'ensemble de la zone.
Cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires et économiques entre les trois pays. C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, tout en précisant que la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme, puisque l'alliance est aussi militaire et économique. Comment vont cohabiter la CEDEAO et cette alliance?
La coexistence entre cette alliance et la CEDEAO ne me semble pas problématique, à condition qu'on puisse trouver des points de complémentarité. Une des faillites de la CEDEAO, à côté de l'échec à prévenir et à gérer les coups d'État, c'est aussi son absence sur le terrain sécuritaire. Le Mali, le Burkina et le Niger sont dans une situation sécuritaire assez grave, mais la CEDEAO n'a jamais pris en main ce dossier sur le plan de la lutte contre le terrorisme. Elle a laissé ses États se débrouiller tout seul.
Sédek Abba, analyste politique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Au Bénin, la diversification des énergies a de beaux jours devant elle. Diverses installations de méthanisation ont vu le jour, permettant à la population de tirer le meilleur parti des déchets qui souvent encombrent les rues et les marchés. L'obtention du biogaz à partir des épluchures de manioc et autres offre des pistes de réflexion pour de futures initiatives du genre. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Pas 7 ans de cherté du gaz domestique dont le prix a doublé, les populations se sont tournées vers d'autres alternatives dont le biogaz. Au Bénin, de nombreuses entreprises excellent dans le secteur. C'est le cas de Biogaz Bénin qui depuis 10 ans effectue des recherches pour la valorisation des déchets animaux et végétaux. Cette structure compte à son actif plusieurs innovations. Enoch Yangar est le directeur de Biogaz Bénin.
A priori, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir produire de l'électricité à partir de ces déchets, mais aussi un gaz qui peut être emprisonné et dans des bouteilles pour être commercialisé. L'autre volet de l'innovation aujourd'hui avec Biogaz Bénin, c'est la possibilité de permettre à tout promoteur, tout bailleur, à tout investisseur de pouvoir suivre son ouvrage, quel que soit le nombre d'années et le lieu où se trouve l'ouvrage à distance.
Les installations pour en produire sont légion avec des propositions plus rentables aux ménages et même aux entreprises. Charles Balogun est le président de l'ONG Afrique Espérance. Il se réjouit de cette possibilité qui s'offre à tous, surtout aux femmes transformatrices de produits locaux.
L'utilisation de ces énergies, ça favorise aussi la santé de ces femmes, parce qu'avec le bois de chauffe, elles ont des problèmes respiratoires, elles ont des problèmes de santé. Mais avec l'utilisation du biogaz, tout ceci-là, ça amoindrit de manière drastique tous ces effets négatifs du bois de chauffe qu'elles utilisaient.
Au Bénin, il existe plusieurs associations de femmes qui évoluent dans la transformation du manioc en utilisant un biodigesteur qui produit du biogaz grâce aux épluchures des tubercules et autres déchets. Depuis qu'elles ont découvert cette technologie, le travail devient plus plaisant, selon Dr Grace Chidi-Focan, l'une des formatrices.
C'est une technologie abordable, facile d'utilisation. Et les dames, elles l'ont démontré. Après une petite formation, elles ont pris rapidement en main et elles l'utilisent très facilement. Et ça leur permet aussi d'avoir une autonomie en énergie. Elles produisent elles-mêmes leur énergie sur place et elles utilisent.
Marc Gianelli est le promoteur du centre Rubin de Toffor au Bénin, un site de valorisation des déchets organiques. Pour l'entrepreneur suisse qui s'est installé au Bénin, cette énergie a de l'avenir, pourvu qu'il y ait suffisamment d'eau pour lui permettre d'évoluer.
Pour bien digérer, il faut boire en même temps. Donc le biogaz, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il est très gourmand en eau. C'est presque un ratio de moitié-moitié. Moitié de déchets, moitié d'eau. Donc c'est beaucoup d'eau qui sert à cette production. Et là, on va le voir après ça dans le dépôt. Déjà, après 1 ou 2 jours de fermentation, le biogaz va déjà commencer à se produire. Donc ici, rien qu'avec ces 2 unités, on est normalement capable d'atteindre 120 000 litres, donc 120 mètres cubes de biogaz. Par semaine.
En raison de l'importance de l'eau potable pour les communautés, Rubin veut aussi réaliser 10 forages d'ici 2024 et l'échanger contre les épluchures. Chaque kilo de déchets organiques collectés sera échangé contre 12 litres d'eau potable. Marc Gianelli pourrait de ce fait régler plusieurs problèmes environnementaux à la fois. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Le président américain Joe Biden s'adresse à l'Assemblée générale de l'ONU qui commence officiellement aujourd'hui à New York, où il devrait souligner les efforts des États-Unis pour renforcer la sécurité alimentaire mondiale et reconstituer le Fonds mondial de lutte contre le sida et d'autres pandémies. Un reportage du chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, relaté ici par Mohamed Humfa.
Après sa visite historique au Vietnam et le sommet du G20 en Inde, le président américain Joe Biden échangera à nouveau avec les dirigeants du monde, cette fois à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il devrait à nouveau plaider un soutien à l'Ukraine, comme il l'a fait l'année dernière.
Cette guerre vise à supprimer purement et simplement le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, ainsi que le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit d'y assister en personne pour rallier le soutien à son pays. Il rencontrera Joe Biden à la Maison-Blanche jeudi. Au-delà de l'Ukraine, Joe Biden prévoit également d'évoquer les préoccupations des pays du Sud, notamment la crise climatique, la pauvreté, le sort des réfugiés, l'inflation et la réduction de la dette. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale.
These are connected. Ces sujets sont liés parce que la guerre, l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie a eu des répercussions sur la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et d'autres formes de préjudice pour les pays du monde entier. Ainsi, mettre fin à cette guerre dans des conditions justes sur la base des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale bénéficierait non seulement au peuple ukrainien, mais à tous les peuples du monde.
Pour ne pas être supplanté par le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a rencontré les dirigeants d'Asie centrale plus tôt cette année, M. Biden devrait également rencontrer les dirigeants du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, du Turkménistan et de l'Ouzbékistan. Linda Thomas Greenfield, ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU.
Nous ne considérons pas cela comme une concurrence pour l'influence de la Chine auprès de ces pays. Nous considérons que cela s'appuie sur une relation que nous entretenons déjà.
Joe Biden tiendra des réunions bilatérales en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, notamment avec le prochain président du G20, le président brésilien Lula da Silva, et avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Les États-Unis ont exprimé leur désapprobation à l'égard de la ligne dure du gouvernement Netanyahou, notamment de son projet de réforme judiciaire, qui, selon les critiques, constitue un danger pour la démocratie israélienne.
Sur le plan intérieur, le président Biden dit se concentrer sur les choses que veut le peuple américain et non sur le théâtre politique après que la Chambre des représentants a ouvert, en vue de sa destitution éventuelle, une enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait bénéficié des relations d'affaires à l'étranger de son fils Hunter. Les démocrates parlent de distraction et puis il y a risque de shutdown du gouvernement fédéral fin septembre. Reportage Arash Arabasadi, récit Lionel Gahima.
Le président Joe Biden s'est rendu à l'église dans son état d'origine, le Delaware, quelques jours seulement après que les républicains de la Chambre des représentants ont ouvert une enquête en vue d'une procédure de destitution à raison d'une corruption présumée. La Maison-Blanche parle d'un coup politique. La semaine dernière, le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, s'est adressé aux médias devant son bureau au Capitole.
Les républicains de la Chambre des représentants ont découvert des allégations sérieuses et crédibles concernant la conduite du président Biden. Prises dans leur ensemble, ces allégations dressent le tableau d'une culture de la corruption.
M. McCarthy a ensuite qualifié ces allégations d'abus de pouvoir, d'obstruction et de corruption qui justifient une enquête plus approfondie de la part de la Chambre des représentants. Les démocrates estiment qu'il s'agit là d'une pire politique partisane. Le leader démocrate de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, s'est exprimé dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
La Maison-Blanche a coopéré et je pense qu'elle continuera à le faire car il n'y a rien à cacher. Il n'y a pas de fait dans le dossier qui suggère que le président Biden a commis des actes répréhensibles. Il n'y a aucun fait dans le dossier qui suggère que le président Biden s'est engagé dans des délits susceptibles d'être mis en accusation. Aucun élément du dossier ne permet de penser que le président Biden a enfreint la loi d'une manière ou d'une autre. Il s'agit d'une enquête illégitime de mise en accusation.
Les républicains souhaitent obtenir davantage d'informations sur ces allégations. La républicaine Nancy Mace s'est exprimée dimanche dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Les faits sont partout. Il y a des SMS, il y a des courriels, il y a des témoins, il y a des dénonciateurs, il y a des réunions, il y a des appels téléphoniques, il y a des dîners. Et vous ne pouvez pas dire il y avait un peu de fumée. Nous n'allons pas suivre le feu.
L'ancien président Donald Trump, candidat républicain à la présidence, qui fait l'objet de plus de 40 chefs d'accusation dans des multiples affaires judiciaires, se dit favorable à une fermeture du gouvernement si les républicains de la Chambre des représentants n'obtiennent pas ce qu'il appelle un accord équitable sur un projet de loi des dépenses à court terme. Les détails de cet accord équitable restent flous. L'avenir de M. Biden et McCarthy est étroitement lié à cette enquête de destitution. Après l'ouverture d'une enquête, l'ensemble de la Chambre déterminera si le président doit être mis en accusation, ce qui déclenchera un procès au Sénat si le vote est positif. Entre-temps, la Chambre ne dispose que de quelques jours ouvrables pour adopter une résolution permanente à court terme, sous peine de voir le gouvernement fermer ses portes. Certains républicains conservateurs exigent des réductions des dépenses inférieures à celles que le député Kevin McCarthy a acceptées dans le cadre d'un accord budgétaire avec M. Biden au début de l'année.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Au micro, Idrissa Seydoudia.